Jean Fabre de la chimie à l'ONU, l'humain comme dénominateur commun.
Les 9 et 10 octobre dernier, lors des rencontres Envie d'humanité à Fort-Calquier, notre journaliste Camille Garcia a rencontré un électron libre à l'œil malicieux, mais qui n'aime pas l'atome pour autant. Peut-être parce qu'il est né dans une famille pas comme les autres, ses deux parents étaient sourds, comme dans le film La famille Bélier, Jean a appris à oser. Oser handicap ou pas, oser s'indigner, oser la fraternité tout simplement. Son premier acte de résistance, devenir objecteur de conscience, sera suivi de beaucoup d'autres. Ses combats sont multiples avec un dénominateur commun, l'humain, l'arrêt du nucléaire, la lutte contre la pauvreté ou la faim dans le monde. Il finit logiquement par être appelé par l'ONU en 1985, d'abord à la communication, puis 10 ans durant comme directeur adjoint du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Aujourd'hui, Jean prône l'économie sociale et solidaire. Il en est sûr, c'est la voie essentielle pour réussir le 21e siècle. Je vous propose de l'écouter évoquer son incroyable parcours avec humilité, puis réaffirmer l'utilité concrète de l'ONU, le lien entre tous les pays du monde. Enfin, il insiste sur l'impératif pour l'humanité de se reposer la question de la fraternité. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette interview sur notre site fréquencemistral.com. Jean Fabre.
Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool, je vole.
Moi, je suis né dans une famille de personnes très modestes, mais j'avais deux parents qui étaient sourds. Alors, c'est un peu la famille Bélier, c'est un peu ça. Et donc, j'ai compris dans mon enfance qu'est-ce que c'est que le handicap, qu'est-ce que c'est qu'une société qui n'est pas capable d'intégrer les différences, et en même temps, les possibilités infinies que chacun a, puisque finalement, un sourd, comme n'importe qui, peut tout. Et ça m'a donné quand même une base de départ intéressante. Et puis après, j'ai fait des études de physique. Et j'ai travaillé à la fois à l'université comme assistant d'un professeur et dans le secteur privé comme ingénieur. J'ai quitté tout ça pour rejoindre le mouvement international de la réconciliation dont j'étais secrétaire international. Je me suis occupé dans le monde entier de promouvoir la paix, la non-violence, la justice. C'est là que j'ai rencontré des personnes comme Adolfo Pérez Esquivel, qui est devenu prix Nobel de la paix plus tard, d'autres qui le sont devenus aussi, ou certains qui l'étaient. Sur ce chemin, j'ai été moi-même appelé à l'armée, dont j'étais objecteur de conscience, mais en ne cherchant pas à obtenir un statut d'exception, dont j'étais carrément insoumis. Et de ce fait, j'étais jugé par un tribunal militaire. J'en ai contesté la légalité, pas seulement devant le tribunal qui s'est estimé compétent, mais sur le principe juridique même. Et aujourd'hui, il n'y a plus de tribunaux militaires de temps de paix en France parce que les campagnes qu'on a montées ont permis de déboucher quand même sur quelque chose. De là, j'ai été appelé aux Nations Unies parce que, entre-temps, dans ce parcours, j'ai été en Italie, secrétaire général d'un parti politique, le Partito Radicale. Et donc, à partir de là, on a mené, entre autres, comme campagne, celle de faire en sorte qu'il y ait un budget d'aide au développement correct en Italie. Ce faisant, j'ai été appelé par le système des Nations Unies. Et du coup, je me suis retrouvé au programme des Nations Unies pour le développement, d'abord comme responsable de la communication sur toute l'Europe. C'est là, dans ce cadre-là, que j'ai créé l'Alliance mondiale des villes contre la pauvreté. Et je continue toutes ces choses en étant en particulier dans la promotion de l'économie sociale et solidaire, une voie essentielle si on veut réussir le 21e siècle.
Et vous qui avez côtoyé du coup ces institutions, est-ce qu'il y a des réels effets sur la pauvreté, sur l'amélioration des conditions de vie ?
C'est un effet tellement important que si on compte en réalité ce qu'est cette structure onusienne, l'impact humain est énorme. S'il n'y avait pas eu les Nations Unies et donc l'alliance entre l'Organisation mondiale de la santé, le programme des Nations Unies pour le développement, même la Banque mondiale est associée dans ce programme, aujourd'hui vous auriez des dizaines de millions de personnes qui seraient aveugles en Afrique alors qu'elles voient. C'est aussi ce qui permet aujourd'hui à des réfugiés qui fuient la guerre en Syrie, en Libye ou ailleurs, de se retrouver dans les pays voisins et de survivre, alors qu'autrement ils seraient détruits et morts. Quelquefois, on peut être impatient face à ce qui se produit aux Nations Unies parce qu'on a l'impression que ça va passer vite. Mais c'est normal. Les Nations Unies, c'est le plus petit dénominateur commun entre tous les pays du monde. Mais ce plus petit dénominateur commun, comme c'est aussi une mise en commun de ressources, ça peut faire beaucoup de choses. J'en profite pour souligner le rôle pionnier aussi qu'on peut avoir dans un système comme l'Organisation des Nations Unies. Parce que quand vous avez une déclaration comme la Déclaration universelle des droits de l'homme, qu'on devrait dire Déclaration universelle des droits humains, parce que homme, c'est un peu sexiste comme expression, elle affirme un certain nombre de principes. Une fois que la totalité des États adhèrent à ces principes, et tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont dotés de conscience et de raison et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Quand on a dit ça, on a tout dit aux Nations Unies en proposant ça. Une fois que c'est adopté par les États du monde, ça n'est plus la parole de certains qui souhaitent poser cette utopie, cet objectif à atteindre pour l'humanité. C'est la parole donnée par ceux qui gouvernent, qui ont la légitimité à gouverner, qui s'expriment en notre nom. Donc nous avons, en tant que citoyens, un point d'appui extrêmement fort parce que nous pouvons tenir comptable les gouvernants d'une chose à laquelle ils ont souscrit. Donc on est tous engagés par ça, c'est le pacte qui lie l'humanité entière. Et c'est pour ça qu'il faut que nous employions, nous, à le traduire dans le concret. On ne va pas continuer à vivre dans la schizophrénie permanente dans le monde. On est capable de tout aujourd'hui. Moi, je suis né dans un monde de 2,4 milliards d'habitants dans lequel on sortait de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, et donc il fallait reconstruire, il fallait produire. Les choses n'étaient pas accessibles en grande quantité. J'ai vu petit à petit les magasins commençaient à se remplir de produits de toutes sortes, une diversification énorme qui s'est faite. Puis la télévision est apparue. Et puis les technologies de l'information, de la communication qui sont arrivées, les ordinateurs, le téléphone portable, les échanges extraordinaires qu'on peut faire. Aujourd'hui, on a la capacité à tout faire. On peut aller sur la Lune. On a la richesse par habitant la plus élevée de toute l'histoire de l'humanité. Pourquoi a-t-on encore des pauvres ?
L'humanité est face à un choix aujourd'hui.
Oui, mais chacun d'entre nous est face à un choix. Donc il faut qu'on comprenne qu'on est en déficit de fraternité. Et si on veut combler ce déficit de fraternité, c'est pas si compliqué que ça. Il faut décider de déserter la société de la violence et de l'inégalité ou de l'injustice dans laquelle on se trouve, et de la consommation, de la surconsommation, et rentrer dans autre chose.
Ce soir, je ne m'enfuis pas, je vole.